Chapitre 70. La tempête faisait rage au-dessus d'eux. Les anneaux et le firmament avaient disparu depuis longtemps et seuls les éclairs illuminaient les murailles d'eau bordant la brèche, mais celle-ci s'étendait sur une telle distance, tant à l'est qu'à l'ouest, qu'il ne parvenait pas à rendre visible son immensité. Mais voilà que les éclairs se faisaient plus fréquents, plus rapprochés, et que le tonnerre faisait résonner ses échos sur la totalité du couloir entouré d'eau endiguée, et Harman, bien protégé par sa thermopompe, bien à l'abri dans son duvet ultra fin, apercevait 150 mètres au-dessus de lui les vagues qui se fracassaient les unes contre les autres, projetant des gerbes d'écume à 30 mètres de haut. Les nuages tourmentés ne se trouvaient qu'à quelques centaines de mètres au-dessus de l'Atlantique en furie, et bien que les eaux profondes fussent relativement calmes, Harman discernait nettement l'agitation qui s'emparait des couches supérieures. La même agitation régnait dans les ponts tunnels. Ainsi avait-il baptisé les cônes, les tubes et les tunnels énergétiques qui reliaient les eaux de part et d'autre de la brèche et que Moira appelait tout simplement « conduit ». L'un de ces ponts-tunnels enjambait la brèche 60 mètres au-dessus du sol, à 400 mètres environ de leur campement, et un autre 1500 mètres à l'est. À la lueur des éclairs, on voyait bouillonner l'eau qui y circulait en quantité phénoménale. Harman se demanda dans quelle mesure la tempête était responsable de cette activité. Il sentait choir sur lui une pluie d'embrun car si les barrières invisibles étaient trop hautes pour que les vagues se déversent sur eux, l'écume en retombant parvenait jusqu'au sol desséché. Harman avait soigneusement plié ses vêtements pour les ranger dans son sac à dos, lequel était étanche ainsi que son duvet, mais il avait rabaissé son masque osmotique et son visage était trempé. Il lui suffisait de se lécher les lèvres pour savourer le goût du sel. La foudre percuta le sol à moins de 100 mètres de lui. Le coup de tonnerre lui secoua jusqu'aux dents.
« On ne devrait pas bouger !»
cria-t-il à Moira. Celle-ci avait également enfilé une thermopompe. Elle s'était dénudée devant lui sans le moindre signe de gêne, comme s'ils étaient amants, ce qui n'était pas faux, avait-il songé en rougissant.
« Hein ?»
fit-elle. Le fracas des vagues et les rugissements des cieux avaient étouffé la voix d'Harman.
« On ne devrait pas bouger !»
Elle s'enveloppa dans son duvet et se pencha sur l'oreille d'Harman. Tout comme lui, elle avait rabaissé son masque, mais elle s'était contentée de s'allonger sur le duvet et la couche externe de sa thermopompe était trempée, épousait sa peau et faisait ressortir ses côtes et ses hanches.
« Il n'y a que sous l'eau que nous serions en sécurité !» hurla-t-elle. « La foudre ne risquerait pas de nous atteindre! Ça te tente ?»
Harman frissonna. L'idée de franchir le champ de force pour pénétrer dans un domaine où régnaient des ténèbres absolues et une pression écrasante ne le séduisait guère, même si la thermopompe le protégeait en théorie de la noyade et de l'écrasement. Par ailleurs, les éléments semblaient se calmer un peu. Les vagues atteignaient à peine 20 mètres de haut.
« Non, merci !»
répondit-il en criant.
« Je tenterai ma chance ici !»
Il se sécha le visage et remit en place son masque osmotique. Maintenant que le sel ne parvenait plus ni à ses lèvres ni à ses yeux, il était mieux à même de se concentrer. Et il en avait grandement besoin. Ses nouvelles fonctions requéraient toute son attention. La plupart des fonctions qu'il venait d'acquérir, ou plus exactement d'identifier, étaient tout aussi inactives que le libre fax. Par exemple, il savait désormais comment accéder à la logosphère pour obtenir des informations et communiquer avec ses semblables, mais le nouveau maître des anneaux l'en empêchait temporairement. Parmi les fonctions qu'il pouvait ouvrir, toutes n'étaient pas de nature à l'apaiser. Il était par exemple équipé d'un moniteur médical qui, à sa demande, lui avait montré que son régime actuel, limité à l'eau et aux barres nutritives, déclencherait chez lui une carence en vitamines s'il le prolongeait de plus de 3 mois. Il avait également appris que son rein gauche souffrait d'un excès de calcium dont la conséquence serait un calcule dans un délai d'un an, que 2 polypes étaient apparus dans son côlon depuis sa dernière visite à la firmerie, laquelle remontait à 10 ans, que ses muscles présentaient des signes de détérioration due à la vieillesse, que ses défenses immunitaires luttaient avec succès contre un streptocoque le menaçant d'une affection à la gorge, que sa pression artérielle était trop élevée et qu'une tache venait d'apparaître sur son poumon gauche, ce dernier point nécessitant un examen dans les plus brefs délais. « Génial !» se dit Harman en se frictionnant le torse à travers la thermopompe, comme s'il ressentait déjà les effets d'un cancer au poumon. « Comment pourrais-je exploiter ces informations ?» Les firmeries ne me sont guère accessibles en ce moment. » D'autres fonctions avaient des résultats plus immédiats. Il avait découvert l'existence d'une fonction flashback qui lui permettait de revivre avec une netteté stupéfiante, cela ressemblait à une expérience réelle plutôt qu'à un souvenir, tous les événements de sa vie, lesquels étaient enregistrés sous la forme de paquets de mémoire protéinique, qu'il lui suffisait de transférer dans son cerveau pour les faire repasser de la première à la dernière seconde. Il avait déjà revécu à 9 reprises quelques minutes de sa première rencontre avec Ada. Sa mémoire consciente n'aurait jamais pu lui dire qu'elle portait ce soir-là une robe de soirée bleue, et à plus de 30 des instants clés de leur première étreinte amoureuse. Moira ne s'était pas privée de commenter le spectacle qu'il présentait à ces moments-là, regard vide et démarche mécanique. Elle savait parfaitement ce qu'il faisait, ne serait-ce que grâce à son érection, que ni sa thermopeau ni ses vêtements ne parvenaient à dissimuler. Arman avait assez de maturité pour se rendre compte des risques d'assuétude attachés à cette fonction et décida de n'en user qu'avec modération, surtout tant qu'il marcherait ainsi au fond de l'océan. Mais il se repassa certains de ses échanges avec sa vie afin de mieux tirer profit des remarques qu'elle avait pu faire sur le passé, sur les anneaux et sur le monde en général. Des points qui lui avaient paru absurdes sur le moment, mais auxquels son passage dans le cabinet de cristal conférait un nouveau sens. Comme il le constata non sans un pincement au cœur, sa vie avait perdu des siècles à tenter de gagner les anneaux pour négocier avec les post-humains, sans savoir que des vaisseaux spatiaux étaient parqués dans le bassin méditerranéen, ni qu'il existait un moyen de contacter Ariel via les connexions de Prospero à la logosphère. En revoyant mentalement sa vie, il prit conscience de la jeunesse de sa nouvelle itération, à savoir Moira, mais aussi des ressemblances que présentaient les deux femmes. Arman continua de passer ses fonctions en revue. Le Proxnet, le Farnet et l'Olnet étaient aussi désactivés que le Fax, et les fonctions liées à la logosphère, selon toute évidence, seules les fonctions autonomes n'étaient pas affectées. Tout ce qui faisait appel aux satellites, aux accumulateurs de masse orbitaux et aux transmetteurs de données lui était interdit. Mais pourquoi ces indicateurs internes affirmaient-ils que le siglage était hors service ? En toute logique, cette fonction aurait dû se caractériser par une autonomie analogue à celle du moniteur médical qui ne marchait que trop bien. Le siglage était-il subordonné à des satellites relais ? Rien de ce qu'il avait appris dans le cabinet de cristal ne lui permettait de trancher.
« Moira ! » cria-t-il.
Ce fut seulement après avoir ailé sa compagne qu'il se rendit compte que la tempête était passée et que le fracas des vagues s'était atténué. Et comme il portait son masque osmotique, l'émetteur-récepteur avait transmis son cri à plein volume. Il ôta son masque et huma de nouveau la riche senteur océane.
« Que veux-tu, ô bel organe ?»
répondit Moira à voix basse. Elle était allongée à 1 mètre de lui. « Si j'utilise la fonction partage avec mon épouse, avec Ada, quand je l'aurai retrouvée, est-ce que notre enfant à naître recevra également les informations que je transmettrai ?»«
Compterais-tu tes poussins avant que les œufs en soient éclos, mon jeune Prométhée ?»«
Contente-toi de répondre à la question, veux-tu ?»«
Tu devras le vérifier par toi-même. » Je ne me rappelle pas en détail les paramètres de conception. Je n'ai jamais usé de cette fonction avec une femme enceinte. Nous autres post-humains ne pouvions pas être engrossés. Le fait que nous soyons tous de sexe féminin n'arrangeait pas les choses. Alors, il te faudra le découvrir tout seul. Mais si je me souviens bien, la fonction partage était équipée de certains garde-fous. Il est impossible de transmettre des informations dangereuses à un fœtus ou à un enfant en bas âge. Lui envoyer un flashback de sa conception, par exemple. Il ne faudrait pas que le pauvre chéri se tape 30 ans de psychothérapie, pas vrai ?
Arman laissa passer ce sarcasme. Il frictionna ses joues râpeuses. Il s'était rasé avant le début de ce périple, comme il l'avait constaté 10 mois plus tôt sur l'île de Prospero, la thermopeau n'était pas faite pour les barbus, mais 2 jours avaient passé depuis.
Vous étiez équipé de toutes les fonctions que vous nous avez données ? Lança-t-il, ne passant en mode interrogatif qu'à la fin de sa phrase.
« Mon chéri,
ronronna Moira,
nous prendrais-tu pour des imbéciles ? Crois-tu que nous allions faire don à des humains d'un talent dont nous serions privés ?»«
Donc, vous aviez plus de fonctions que nous ? Bien plus que les 100 auxquels nous avions droit ?»
Moira ne répondit pas. Arman avait découvert des nanocaméras et des récepteurs audio extrêmement complexes insérés dans ses cellules épidermiques.
plus des paquets protéiniques susceptibles d'abriter des données visuelles et auditives. D'autres cellules avaient été converties en transmetteurs bioélectroniques, leur portée était des plus courtes, car seule son énergie cellulaire les alimentait, mais ils n'en fournissaient pas moins des données exploitables.
« L'épopée du Turin, » dit-il à voix haute.
« Oui ?»
fit Moira d'une voix somnolente.
« J'ai compris comment vous transmettiez les images d'Ilium, toi ou tes sœurs transsexuelles, et comment nous arrivions à les capter grâce au Turin. »«
Génial !»
marmonna-t-elle en se rendormant. Arman comprit également qu'il n'avait pas besoin d'un carré de tissu pour capter ses transmissions. Grâce aux protocoles vocaux de la logosphère et à ses connexions multimédia, il pouvait échanger tous les types de données sensorielles avec l'un quelconque de ses semblables ayant accepté la liaison.
Quel effet ça ferait d'être connecté à Ada pendant l'amour ?
Se demanda-t-il, se traitant aussitôt de vieux polisson.
De vieux polisson excité, ajouta-t-il.
Outre la fonction logosphère, il pouvait en ouvrir une autre qui lui proposait une interface sensorielle complexe avec la biosphère. Comme elle était tributaire du réseau satellite, il ne pouvait que formuler des hypothèses sur les sensations qu'elle procurait. Se retrouverait-il en communication directe avec Ariel, ou bien se fondrait-il avec les pissenlits et les colibris? Pourrait-il communiquer à distance avec les petits hommes verts? Redevenant sérieux, il se rappela ce que lui avait dit Prospero. Ariel utilisait ces derniers pour repousser les millions de Calibani qui tentaient d'envahir le sud de l'Europe. Et il en conclut que les Ex lui seraient grandement utiles dans la lutte contre les Voynix. Toutes ces cogitations menaçaient de lui donner la migraine. Il consulta machinalement son moniteur médical et constata que son taux d'adrénaline et sa pression artérielle étaient l'un comme l'autre suffisamment élevés pour expliquer ce subit mal de tête. Il ouvrit une autre fonction médicale, plus active que la simple surveillance, et autorisa l'injection dans son système sanguin de certaines substances chimiques. Ses artères se dilatèrent, puis se détendirent. Une douce chaleur lui picota les doigts. Sa migraine reflua.
Cette fonction serait fort utile à un adolescent frappé d'une érection indésirable, songea-t-il.
Il se rendit compte qu'il était bien un vieux polisson.
Pas si vieux que ça.
Selon son moniteur médical, son organisme était celui d'un homme de 31 ans qui ne faisait pas assez d'exercice. D'autres fonctions défilèrent sur sa liste. Examen approfondi du terrain, renforcement de l'empathie, une fonction qu'il baptisa berserker, une augmentation temporaire des réflexes et de la puissance musculaire, à utiliser en dernier recours durant un combat ou une tentative de sauvetage. Quant à la fonction flashback, qu'il avait déjà testée à plusieurs reprises, il vit qu'il pouvait la combiner à la fonction partage pour communiquer ses souvenirs à autrui. Il existait une fonction lui permettant de plonger son corps dans une sorte d'hibernation, un ralentissement temporaire de l'organisme approchant la stase totale. Il ne s'agissait pas de l'équivalent d'un somnifère, comprit-il, mais d'un processus à mettre en œuvre conjointement à un séjour dans un cercueil de cristal, comme celui du Taj Moira si l'on souhaitait prolonger sa vie un long moment. Un très long moment en ce qui concernait Moira, au moyen d'un sommeil artificiel, tout en s'épargnant des effets indésirables tels qu'escarres, atrophie musculaire et haleine fétide. La véritable Savie avait eu recours à cette fonction lorsqu'elle se retirait dans une crèche au Golden Gate ou ailleurs, vu qu'elle avait survécu 14 siècles sans que ni les Voynix ni les post-humains ne parviennent à la retrouver. Il existait bien d'autres fonctions, dont certaines lui demeuraient totalement incompréhensibles, mais la concentration nécessaire à leur examen ne pouvait que faire ressurgir sa migraine. Il ferma pour la nuit la partie dédiée de son cerveau. Un flot de données sensorielles déferla aussitôt sur lui. Le fracas des vagues dans les hauteurs, l'éclat phosphorescent du phytoplancton sous la surface des eaux, que ses yeux fatigués interprétèrent comme une aurore boréale. Le ciel au-dessus de l'Atlantique était lui aussi illuminé. La foudre ne tombait plus sur les flots, mais éclairait les nuages de l'intérieur, révélant leurs entrailles dans toute leur complexité de fractal. Ce paysage se déroulait dans un silence total. Pas le moindre grondement de tonnerre ne parvenait au fond de la brèche atlantique, et Arman se croisa les doigts sur la nuque pour le contempler à son aise, savourant les jeux de lumière sur les nuées comme dans les profondeurs marines. Il percevait partout des structures. La nature dans son ensemble, L'univers dansant à la lisière du chaos, ceint par des frontières fractales et des millions de protocoles algorithmiques occultes déterminant toute chose et toute interaction, mais néanmoins si beau, or si beau. Il découvrit que l'une des fonctions qu'il n'avait pas explorées pouvait trier toutes ces structures de façon bien plus efficace que des sens humains et une sensibilité humaine. Mais sans doute nécessitait-elle une liaison avec les anneaux et en outre... Arman n'avait pas besoin d'un talent transgénique pour apprécier la beauté de ce spectacle apparemment destiné à lui seul. Allongé sur le sol de la brèche, les mains derrière la nuque, il récita une prière muette pour Ada et leur fils ou fille à naître. Lorsqu'elle aurait activé ses fonctions, elle connaîtrait le sexe de leur enfant. Comme il aurait aimé être à ses côtés. Il pria le dieu auquel il ne pensait que rarement, se quiète que Sétébos et son laquais Caliban redoutaient plus que tout, ainsi que l'avait bredouillé le monstre sur l'île de Prospero, pria pour que sa bien-aimée soit épargnée et soit aussi heureuse que le permettaient les circonstances de leur présente séparation. Alors qu'il s'endormait, Arman perçut les ronflements de Moira. Il ne put s'empêcher de sourire. 1000 ans de nanocytes post-humains et de manipulations génétiques sophistiquées n'avaient pu la guérir de cette plaie. Certes, c'était le corps très humain de sa vie qu'elle... Il s'endormit avant d'avoir complètement formulé sa pensée.